je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé et même pire, tu es venu en sifflant.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas.
Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots. Mais
je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime
le plus fort que je peux.
Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'émission 15 de la saison 2 de 50 nuances d'amour. J'espère que pour ceux qui ont pu prendre des vacances, elles ont été agréables et reposantes. Et puis pour ceux qui ont travaillé, j'espère que vous avez la forme malgré tout pour ce début d'année. Voilà, alors aujourd'hui, écoutez, on va continuer à découvrir le fonctionnement de la relation à l'autre et particulièrement de la relation amoureuse. Mais vous allez voir que là, dans les capsules, hein, dans les extraits que je vais vous proposer ce soir, effectivement, on est sur le sujet de la relation amoureuse. Mais ça peut s'extraire et vous allez pouvoir utiliser ça dans toutes vos relations, finalement, en général. Toujours pareil, l'idée, c'est de mieux se comprendre et pouvoir mieux comprendre l'autre et avoir des relations plus harmonieuses et plus apaisées dans la durée. Voilà. Alors, l'idée, c'est que vous connaissez maintenant le principe. Si vous voulez rebondir, vous pouvez m'appeler au 06 15 94 36 51 en direct ou plus tard. Et puis on peut envisager de faire un bout d'émission ensemble si vous souhaitez venir témoigner sur un sujet en lien avec la relation à l'autre et plus particulièrement la relation amoureuse. Voilà. Alors, la première capsule, le premier extrait, ça s'appelle « L'intelligence amoureuse » ou la mission du couple. Et en fait, c'est un TEDx. Alors, ceux qui connaissent TEDx, en fait, c'est des plateformes où les gens viennent s'exprimer sur des sujets. C'est assez connu, on retrouve beaucoup de TEDx. Tout est disponible sur Internet, sur YouTube. Et voilà, donc là, j'ai capté cette capsule-là, qui dure une dizaine de minutes, je crois. Elle est très intéressante. Alors, la femme est très posée, elle parle avec beaucoup de douceur. Vous allez voir, c'est assez reposant en soi, mais c'est très intéressant à écouter. Enfin, c'est pas mais, c'est très, très apaisant et c'est à la fois en même temps très enrichissant et très intéressant à écouter. Voilà, on se retrouve après.
Une seconde. Il m'a fallu une seconde. Je suis entrée dans son appartement. Il était en train de cuisiner, debout dans sa cuisine. Le long du mur, un livre de recettes. Il était en train de peser des pommes de terre, déjà épluchées, pour faire un gratin dauphinois. Peser des pommes de terre déjà épluchées. Une seconde. En une seconde, j'ai vu son essence. La beauté de son être. J'étais amoureuse. C'était il y a 20 ans. Moi, je passais chez lui à l'improviste, il pleuvait dehors, j'avais les cheveux trempés et j'ai commencé par joyeusement étaler le contenu de mon sac à main sur son canapé pour le faire sécher. Vous auriez vu le contenu de mon sac. Une seconde. En une seconde, lui aussi devenait red dingue de moi. Je l'ai vu dans sa merveille. Et je l'ai vu comme une merveille, jusqu'au jour où son appartement bien rangé, sa tendance à tout organiser, les semaines bien planifiées, commençait à vraiment me taper sur les nerfs. Moi, je viens d'une enfance très libre et joyeusement bordélique. Chez moi, par exemple, au moment de manger, on ouvrait le frigidaire, on prenait ce qu'il y avait dedans, au four, et ça régalait tout ce qui était là. Alors vous m'imaginez peser des pommes de terre déjà épluchées. Et il a tellement aimé cet homme-là. Il a tellement aimé, il y a 20 ans, mon côté last minute, ma tendance à l'improvisation, mes affaires partout dans l'appartement. La vie. Il m'a vue comme une merveille. Et il m'a vue dans ma merveille. Jusqu'au jour où il a commencé à sentir que c'était vraiment n'importe quoi de vivre comme ça. Et progressivement, comme tous les couples du monde, nous sommes passés de l'amour fou à un quotidien plus difficile. Ça vous parle ? 10 ans plus tard, 3 enfants, une maison, nos boulots, et beaucoup de douleurs ensemble. Des moments désespérants où chaque thème part en vrille. Quand on n'était pas ensemble, je sentais vraiment mon amour pour lui, je tenais à lui. Mais sitôt qu'on abordait un sujet, pas moyen de s'entendre. Je me sentais désespérée, j'étais terrifiée, je commençais à penser séparation. Un cauchemar. Ça vous parle ? Ils se marièrent et furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Intox. Tous ces trucs de prince charmant, intox, sont juste des mythes pour nous empêcher de nous mettre au boulot. Parce que l'amour, c'est du travail. Pour nous, ça a commencé sous la forme d'un stage. Un stage de couple imago. 3 journées qui ont tout changé. Ils nous ont fait faire des trucs incroyables. Nous poser, ralentir, respirer, dialoguer, comprendre. Ces 3 jours ont tout changé. Nous avons là compris que nous avions fait le recrutement parfait pour redevenir vivants. C'est romantique, hein, de parler de recrutement en amour. Et pourtant, un recrutement fondamental. Parce que nous sommes nés des merveilles. Nous sommes nés des merveilles riches de plein de potentiel. Et puis, nous avons fait un voyage. Mais regardez les bébés. Capacité à se mettre en lien ou à être dans notre bulle. Ténacité, tendresse, sensualité. Curiosité, créativité, joie, et j'en passe. Nous sommes nés de véritables merveilles. Et puis nous avons fait un voyage. Nous avons fait un voyage dans une famille, nous avons fait un voyage dans une communauté, nous avons fait un voyage dans un monde qui nous a passé des messages et qui nous a fait des psychiatrices. Alors ma langue n'a pas fourché là. Psychiatrice, 2 points, bleu à l'âme. Cicatrice psychique. Alors au cours de ce voyage, nous avons placé des parties de nous, des parties de notre vitalité, des parties de notre liberté d'être, des parties de notre joie, dans un congélateur. Et c'est comme ça que nous arrivons dans la vie des merveilles, en partie congelées. Théorie du congélateur, 2 points. Bon, vous voyez un congélateur ? Pas celui-là. Il existe une autre sorte de congélateur, beaucoup plus important. Celui dans lequel nous avons mis des parties de nous. Il y a pu y avoir des deuils, de l'abus, de la maltraitance. Mais simplement grandir au contact des miens va me faire décider de congeler des parties de moi. Exemple, j'ai 4 ans. J'ai 4 ans et je suis dans la boîte à couture de mamie. Et j'explore. Les bobines, les ciseaux, j'ai 4 ans, c'est magique. Quand mamie revient, je comprends immédiatement sa mine, le ton de sa voix. Quelque chose ne va pas avec moi. Et j'ai 4 ans, alors je décide que ma curiosité, je vais la mettre dans mon petit congélateur. Parce qu'enfant, je vais toujours décider de mettre des parties de moi, de me séparer de parties de moi, plutôt que de risquer de perdre le lien avec l'autre. Et puis en tant qu'enfant aussi, je vais faire des photos. Je vais faire comme des photos du dedans de mon petit monde. J'ai mon petit album photo perso, des traits de caractère positifs et négatifs des gens qui se sont occupés de moi. Et vous savez ce que je vais faire arriver dans la vie adulte ? Eh bien, je vais tomber amoureuse de quelqu'un qui ressemble aux photos de mon album. C'est comme ça qu'en couple, on est câblé pour se mettre dans tous nos états. Pour le meilleur et pour le pire. Alors je récapitule. Quand je tombe amoureuse, quand je tombe amoureux, un, j'ai vu la merveille, je sais la merveille que tu es. Deux, je suis très vivante. Moi, je suis restée vraiment vivante là où toi, tu t'es beaucoup congelée. C'est là qu'on dit que les opposés s'attirent. Trois, j'ai le super pouvoir de te mettre dans tous tes états. Eh ouais, je suis dans ton album photo. Alors, sans relâche, comme j'ai vu la merveille, je sais la merveille, je vais aller toucher le nerf, te mettre en métamorphose, parce que je veux le grand toi. Je te veux entier. Et sa crise. L'intelligence amoureuse s'est passée de « aïe, tu me fais mal !» Et alors je vais me défendre dans le lien. « Ah, aou, je t'ai mis tellement près de mon cœur. Quand tu bouges, tu passes ta main sur mes bleus. C'est douloureux. J'ai besoin de ton aide. » Parce qu'en couple, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Ce n'est pas l'autre mon ennemi. L'ennemi, c'est les bleus de mon enfance. C'est les bleus de nos enfances qui nous prennent en otage dans la relation. Et tout ce qui est de l'ordre de la critique, du blâme, des mouvements d'humeur, de la colère, tout ça, c'est juste les détours de notre cœur pour parler de besoins profonds. Et on doit apprendre à les dire autrement. Parce qu'en couple, nous avons une mission. Et la mission du couple, c'est nous rendre à notre merveille. Redevenir entier, vivant, décongelé. Et ça pique. Vous savez, ces picotements des mains après la neige, on a vite fait de croire que c'est le froid qui fait mal, non ? Le froid endort. C'est le sang qui ramène de la vie qui nous brûle. Alors, on a pris rendez-vous. J'ai un scoop pour vous. Entre amoureux, même si on vit ensemble, 24 heures sur 24, on doit prendre des rendez-vous dans l'agenda, avec un ordre du jour, un process, comme au bureau. C'est comme ça que, tous les deux, dans des dialogues, on a pu faire le voyage et accueillir un petit garçon de l'histoire de mon mari qui avait toujours dû ranger pour être aimé. Et qu'on a pu accueillir et donner de l'amour ensemble à une petite fille de mon voyage de l'enfance qui avait pas mal manqué de repères. Et ces conflits récurrents sur le thème bazar, rangement, improvisation, planification, tous ces moments où on s'était mis en dispute, tout ça s'est dissous. J'ai un deuxième scoop pour vous. Le conflit, ce n'est pas un problème. C'est le cœur du réacteur. C'est précisément le rendez-vous à deux pour transformer le plomb en or. Et sans outils, sans conscience, on transforme le plomb en bouillie. Parce que nos conflits sont des cadeaux. Le conflit, c'est la croissance qui toque à la porte. Mais nous emballons ces cadeaux avec un papier tellement repoussant que personne ne veut les ouvrir. Qui qui veut de la colère, du rejet, de la violence, de la mauvaise humeur, de la critique, de la victimisation? Personne. Personne. Alors, cet homme et moi, à chaque conflit qui s'invite, nous nous asseyons, nous respirons, nous nous connectons et nous faisons ce voyage pour éclairer l'enfance dans la sécurité, dans la connexion, ouvrir à deux ces congélateurs qui nous empêchent de nous aimer totalement. C'est comme une méditation relationnelle pour libérer en douceur les cris du dedans, les mettre à une autre place. Le couple est un voyage initiatique. Mesdames, messieurs, attention. Le couple nous met en danger de vie. Alors vivons. Et je résiste pas à vous présenter mon laboratoire de vie.
Voilà. La vidéo s'arrête dans quelques secondes, donc j'anticipe et je l'arrête. Voilà, ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Alors moi, je partage ce qu'elle dit, dans le sens où effectivement le couple est un lieu où on peut grandir dans le fait qu'on se renvoie des choses et que l'autre est un miroir, c'est-à-dire que l'autre nous montre des choses qu'on refuse peut-être de voir et qu'on a tendance à transférer chez l'autre. Voilà, ça c'est un imbroglio relationnel que 100% des personnes vont visiter dans la relation amoureuse, avec une certaine mesure. Voilà, des fois certains couples vont le visiter beaucoup, extrêmement et très souvent, et puis d'autres beaucoup moins. Mais voilà, après je pense pas que le couple soit le lieu unique pour aller travailler ses blessures d'enfance, hein, parce qu'elle fait bien référence à ses blessures d'enfance. Je pense qu'une thérapie individuelle est quand même nécessaire. Voilà, ça c'est mon parti pris. Donc effectivement, le couple est un enjeu intéressant pour aller à la rencontre de soi, au travers de la relation à l'autre. Mais pour moi, on ne peut pas faire l'impasse d'un vrai travail sur soi, d'une mise en conscience de sa propre histoire, et avec une personne qui est neutre, voilà, et qui va pouvoir accueillir nos colères, nos peurs, nos frustrations, avec beaucoup moins d'enjeux que la personne en face dans la relation amoureuse, chez qui ça va venir piquer aussi, et voilà. Voilà, écoutez, je vous propose une petite pause musicale. Et puis on se retrouve après.
En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a mis un beau bordel. Mais j'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur, mais moi cette fois je veux assumer. J'ai un autre problème, et peut-être encore plus lourd, c'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi les trois prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train. Là c'est loin d'être évident, moi je sais pas comment on fait pour décrire ses sentiments quand on vit avec une fée. Puis faut avouer qu'elle a des yeux, ils sont même pas homologués. Des fois ils sont verts, des fois jaunes, je crois même que la nuit ils sont violets. Quand je m'enfonce dans son regard, je perds le là, je touche plus le sol. Je me perds profondément et j'oublie exprès ma boussole. Depuis que je la connais, je ressens des trucs hallucinants. Et je me dis souvent que j'ai eu de la chance de lui avoir plu, sinon j'aurais jamais su qu'un rire pouvait arrêter la terre tournée. J'aurais jamais su qu'un regard pouvait habiller mes journées. Je comprends pas tout ce qui se passe, y a plein de trucs incohérents. Depuis qu'elle est là, rien n'a changé, mais tout est différent. Elle m'apporte trop de désordre et tellement de stabilité. Ce que je préfère, c'est sa force, mais le mieux, c'est sa fragilité. Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai redécouvert comme ça réchauffe d'avoir des sentiments. Et si tu me dis que c'est beaucoup mieux de vivre sans, tu mens. Alors je les mets en mots et tant pis si mes potes me chambrent. Moi je m'en fous, chez moi il y a une sirène qui dort dans ma chambre. J'avais une vie de chat sauvage, elle l'a réduite en cendres. J'ai découvert un bonheur tout simple, c'est juste qu'on aime être ensemble. On calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Il y a des sourires et des soupirs, il y a des fous rires à en mourir. On peut s'ouvrir et s'en rougir, déjà se nourrir de nos souvenirs. Les pièges de l'avenir nous attendent, mais on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer en première classe. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer en première classe.
Alors pour ceux qui souhaitent avoir le titre, c'est donc c'est bien sûr Grand Corps Malade et c'est Comme une évidence. Alors on va continuer avec notre cheminement sur la relation à l'autre et la relation à soi, la relation amoureuse qui en découle. C'est une capsule qui parle du détachement émotionnel. Donc avoir une capacité effectivement à prendre du recul par rapport aux autres, par rapport aux interactions, ressentir des choses de manière moins intense, à se sentir moins impacté par l'autre. Ça, c'est un cheminement important, intérieur important à faire. Voilà, prendre de la distance, mettre de la distance, être en capacité d'être dans la maîtrise de ses émotions et pas être envahi par ses émotions. Ça facilite après grandement les relations. Voilà, donc là, je vous passe une capsule qui en parle. Ça s'appelle Détachement émotionnel. Comment retrouver votre liberté intérieure?
Détacher quelque chose, souvent c'est pas très compliqué. Il suffit de mettre un peu de produit, on frotte, on rince, on met à la machine et hop, c'est terminé.
Mais si seulement c'était aussi facile de se détacher de nos attentes, de nos frustrations, des gens qu'on aime mais qui sont indisponibles, de nos émotions. En réalité, c'est que le détachement émotionnel, c'est un art, c'est tout un art. Et cela s'apprend. Que ce soit se détacher d'une relation, faire le deuil d'un passé douloureux, ou bien nous libérer des attentes irréalistes. Ce n'est pas facile, mais apprendre à se détacher, c'est reprendre sa liberté, son autonomie, son indépendance. C'est découvrir un autre goût à la vie, un état d'être où on peut se sentir apaisé, libre, indépendant. Pour comprendre ce que c'est que le détachement, parce qu'il semble difficile de considérer cette notion-là si on ne l'a jamais connue, ou très peu connue. Donc pour comprendre ce que ça veut dire, le détachement, eh bien je vous propose de comprendre l'opposé de cette notion. Quand on est trop attaché, soit à une personne, à une situation, à un résultat, à un job, en fait on tombe dans la dépendance émotionnelle. On devient dépendant de cette relation, ou bien de cette situation, ou bien de ce poste, ou bien même d'un certain résultat. Si on parle d'une relation par exemple, ça veut dire que chaque geste de cette personne, chaque mot, chaque pas, chaque comportement vous impacte profondément et vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie. Même si en surface vous semblez calme, serein, eh bien à l'intérieur c'est une tempête. Alors pour être réaliste, j'ai envie de dire qu'un détachement total n'existe pas. Et il y a toujours un certain degré d'attachement parce que nous sommes humains. Mais la vraie question, c'est à quel degré ça m'affecte? Ou bien chaque déception vous entraîne dans des ruminations sans fin, des nuits agitées, au point où ça devient un véritable obstacle dans votre vie. Vous avez du mal à mener un quotidien serein, parce que vous êtes trop attaché à une situation ou bien à une personne. Et dans cet état de dépendance émotionnelle, on est ballotté en fait, un peu comme une plume au vent. On n'a pas de contrôle sur nos émotions. On finit par mesurer notre propre valeur, notre humeur, à la manière dont cette personne nous parle, nous traite, si on parle d'une personne, ou bien encore on laisse un certain résultat, un standard, une norme ou une performance qu'on souhaite atteindre déterminer notre état d'esprit et notre valeur. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que ce besoin d'attachement excessif n'est pas un défaut personnel. Ce n'est pas un défaut. C'est juste un schéma appris. C'est un mécanisme qui vous a permis de vous protéger de vos insécurités par le passé. L'attachement excessif, c'est souvent l'aspect extérieur d'un besoin caché, dissimulé, de contrôler sa réalité. On a besoin de contrôler sa réalité pour se sentir en sécurité. Quand on est excessivement attaché, on s'accroche à l'idée que si les choses se passent exactement comme on les a prévues, comme on le souhaite, que ce soit dans une relation, une situation, un résultat, peu importe la situation, alors on se sentira en sécurité. On va enfin se sentir aimé, valorisé. On cherche inconsciemment à diriger l'extérieur pour apaiser nos insécurités intérieures. Cet attachement, c'est un peu notre façon de croire qu'en exerçant un contrôle invisible, on pourra influencer les comportements des autres, on pourra influencer les réactions, on pourra influencer l'issue ou les résultats d'une certaine situation donnée. Mais en réalité, plus on essaie de s'accrocher, plus on renforce notre dépendance émotionnelle et plus on finit par être très affecté lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Alors on est pris dans un cercle vicieux parce qu'on veut contrôler les choses pour nous protéger de la douleur, on s'attache trop, mais au final cet attachement excessif devient la source même de cette souffrance. Et donc, en voulant contrôler les choses, paradoxalement, ça finit par échapper à notre contrôle. Ça ne nous apporte pas la sécurité qu'on cherche, au contraire, ça engendre encore plus de frustration, encore plus de déception, encore plus de culpabilité. L'attachement nous donne simplement l'illusion de pouvoir, mais c'est pas un vrai pouvoir. C'est une manière indirecte de compenser un sentiment profond d'impuissance. On espère que plus on s'investit émotionnellement dans une situation donnée, on pourra orienter les choses à notre avantage, mais ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Et cette tentative de combler le sentiment d'impuissance par l'attachement excessif à quelque chose qui est extérieur, ça ne fait qu'intensifier notre dépendance émotionnelle. Ça renforce le même sentiment d'impuissance qu'on cherche justement à éviter. En fait, le détachement, c'est un peu l'opposé de cette dépendance. Cela signifie que votre valeur, votre équilibre émotionnel ne dépendent plus de cette situation, de cette relation, de cette personne, de cette performance. Vous apprenez à réguler vos émotions, non pas en devenant insensible, mais en apprenant à apaiser rapidement les tensions internes et en trouvant un équilibre avec cette réalité extérieure. La première chose à comprendre, c'est que ce détachement n'implique pas l'indifférence. Cela ne veut pas dire que vous allez devenir stoïque, insensible, incapable de réagir. Nous sommes humains après tout, on n'est pas complètement détaché de nos émotions. Mais en adoptant une mentalité différente, vous allez commencer peu à peu à cultiver votre liberté émotionnelle. Et avant d'apprendre à se détacher, il est essentiel pour moi de remettre en question certains idéaux, certaines croyances sur le monde. Parce que souvent, c'est ça qui nous garde captifs. Les idéaux sur les relations, sur notre place dans la société, sur les valeurs, etc. Parce que souvent, on entretient des récits qui nourrissent cet attachement excessif. Par exemple, il y a cette croyance que si l'autre personne vous aime, elle finira par s'adapter à vos attentes. Ou encore cette idée que je dois être tout pour cette personne afin de combler tous ses besoins. Et elle, en contrepartie, elle doit faire la même chose pour moi. Et puis, il y a les attentes de la société. Pour se sentir légitime, je dois atteindre certains résultats. Je dois afficher un statut particulier. Je dois réussir selon certains critères prédéfinis par la société. Pour avoir du succès, il faudrait obtenir un diplôme, une formation, suivre un parcours. Qui, en soi, ne sont pas de mauvaises choses, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Là où ça pose problème, c'est quand on s'attache trop, ça devient le centre de notre vie et qu'on n'arrive pas à voir d'autres possibilités. Ce sont des récits, des attentes implicites qui vont nourrir notre attachement excessif et souvent notre déception après. Si on y réfléchit, on peut remonter vraiment à l'origine de cet attachement et on va trouver que c'est le résultat d'un conditionnement familial, social. La pression qu'on subit des normes sociales, la pression qu'on subit des institutions depuis notre jeune âge, lorsque nous sommes trop attachés à ces normes-là, ça veut dire que notre état émotionnel, que nos réactions, nos pensées, notre comportement sont tous exclusivement dictés par ces normes, par ces attentes extérieures à nous, par les rôles les rôles prédéfinis que la société nous a imposés. Il faut bien admettre qu'on ne peut pas changer la société. On ne peut pas changer le système à un niveau individuel. Et ça me rappelle les réflexions du neurobiologiste Henri Laborit, qui critique les structures systémiques qui façonnent notre comportement, qui nous impose un modèle de vie rigide et qui nous mène à l'impuissance in fine. On est conditionné par les systèmes depuis notre jeune âge. Et inconsciemment, on a adopté ces rôles prédéfinis par la société, par notre famille et puis après par la société. La société a confirmé ces rôles. Et ça a limité notre liberté, ça limite notre créativité parce qu'on doit rentrer dans le moule de la société. Ces systèmes nous ont formatés pour qu'on réponde aux attentes du groupe et nous soumettre à la hiérarchie. Ce conditionnement nous pousse à nous conformer au détriment de notre bien-être. Pourquoi je vous parle de ça? Quel est le lien avec le sujet de l'attachement émotionnel? Eh bien, pour moi, je considère que l'attachement excessif, c'est une forme de lutte indirecte contre certaines contraintes, contre des attentes extérieures, des projections de ces conditionnements familiaux et sociaux. L'attachement excessif nous pousse à vouloir contrôler subtilement le monde qui nous entoure. Au lieu d'affronter directement nos insécurités, on va s'attacher à une personne, à un statut social, à une situation donnée. Et il faut que les choses se passent exactement comme on l'espère pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Même si on atteint ce statut, même si on atteint ce résultat, on reste quand même excessivement attaché et dans la dépendance émotionnelle parce qu'on a peur de les perdre. Et à l'opposé, le détachement, on pourrait l'assimiler à la fuite silencieuse préconisée par Henri Laborit, par exemple. Ce n'est pas une fuite physique en soi, c'est une forme d'évasion émotionnelle, intellectuelle, créative. Ça nous permet quelque part de nous déconnecter émotionnellement de ces normes qui nous sont imposées, d'adopter une perspective beaucoup plus libre. Peut-être que vous ne voyez pas le lien direct avec votre attachement actuel et les normes sociales. Mais ce lien existe même indirectement parce que tout part d'un conditionnement. Prenons un exemple juste pour illustrer. Imaginez que vous avez grandi dans un milieu social qui idéalise la réussite académique ou financière. Vous avez été conditionné à croire que pour être accepté dans votre famille, dans la société, pour vous sentir valorisé dans la société, eh bien il faut absolument répondre à cette norme. Il faut atteindre certains objectifs. Alors, vous vous attachez trop inconsciemment à un certain statut professionnel, à une carrière, à un parcours académique. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose d'avoir des ambitions ou bien de vouloir atteindre un statut professionnel ou bien atteindre certains objectifs. Ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ça devient problématique lorsque on y attache exclusivement notre valeur et notre bien-être. Ça devient problématique lorsque on ne voit pas une autre réalité en dehors de toutes ces normes-là. C'est-à-dire quand si on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, cet attachement devient une source de mal-être. Peut-être que le conditionnement que vous avez reçu, c'est il faut toujours être gentil, ou bien il est nécessaire de sacrifier vos limites pour être socialement accepté. Alors, sans vous en rendre compte, vous accordez une importance énorme à cette idée de la gentillesse. À cette idée, il faut que je sois une bonne personne. Et vous avez trop peur de paraître, entre guillemets, comme une mauvaise personne, quitte à sacrifier vos propres besoins légitimes, quitte à sacrifier vos limites. Dans cet exemple en particulier, vous êtes trop attaché à l'image d'être une bonne personne, à l'idée de ne jamais apparaître comme quelqu'un d'égoïste, par exemple. Et ça va vous épuiser, parce que ça va vous amener, par exemple, à fournir 10 fois plus d'efforts que les autres, à donner sans compter, à sacrifier votre bien-être. Vous devenez prisonnier de cette image, de cette obligation tacite qu'il faut être une bonne personne pour être apprécié. Vous devez toujours être disponible, attentionné, généreux, même si ça signifie de vous épuiser. Et cet attachement ne fait que renforcer la croyance qu'il est dangereux ou inacceptable de penser à soi. Le détachement, pour moi, commence par le fait de se désillusionner. C'est revoir nos attentes, revoir nos idéaux. Parce que notre conditionnement nous mène souvent à projeter des attentes irréalistes sur le monde, sur les autres, ou même sur nous-mêmes. On s'impose des exigences trop rigides. Et j'aimerais vous proposer d'essayer une autre approche, celle de l'acceptation radicale. C'est-à-dire reconnaître qu'il y a des situations qu'on ne peut pas maîtriser. On n'a pas forcément le contrôle sur tout. Et ce n'est pas synonyme de résignation ou bien de soumission, non. L'acceptation n'implique pas d'approuver ou bien de tolérer des situations qui nous sont néfastes. L'acceptation n'est pas synonyme de passivité. L'acceptation n'est pas synonyme de renoncer à ses valeurs profondes. Il y a des éléments de la vie qui sont tout simplement hors de notre portée. Et l'acceptation ne doit pas être confondue avec l'approbation des circonstances. Il s'agit plutôt d'embrasser la réalité dans sa forme brute, d'être en paix avec ce qui est, tel que c'est, sans chercher à lutter intérieurement. En fait, il s'agit simplement de mieux naviguer dans le monde et de se sentir en paix avec soi-même, de se sentir en paix avec le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cet état de lutte. Et imaginez, pour mettre en contraste deux situations opposées, imaginez deux personnes qui doivent réaliser exactement le même défi. Une personne qui part avec un état d'attachement excessif et une autre personne qui part avec confiance et détachement, avec calme et sérénité. Qui, à votre avis, va mieux réussir ce défi? Alors, il y a des chances que les deux réussissent le défi, mais qui va le mieux réussir? Est-ce que ça va être la personne agitée, anxieuse, qui a peur dans les insécurités, qui est stressée, ou bien la personne qui arrive à gérer son anxiété? Cette personne qui n'est pas neutre, n'est pas stoïque, mais qui arrive à se détacher de la situation, donc elle se sent plus calme, elle se sent plus sereine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de la philosophie ancienne du Wu Wei qui vient de Chine. Moi, j'aime beaucoup ce principe de non-action, ou bien d'action sans effort. C'est parce que ça encourage vraiment le lâcher-prise, ça encourage le détachement, parce que en étant détaché, on agit d'une manière plus efficace, plus fluide. On agit plus en harmonie avec le flux naturel des choses, sans chercher à contrôler, sans chercher à forcer les choses. Le détachement, ça veut dire arriver à gérer des situations de façon plus détendue, avec moins de résistance. On abandonne quelque part ce besoin excessif de vouloir adapter les choses à nos attentes. Et on apprend à lâcher prise. On apprend à naviguer. On reconnaît les moments où il est plus sage de ne pas intervenir, de ne pas insister. Et paradoxalement, on est souvent plus efficace et plus serein quand on cesse de s'accrocher aux résultats. Et qu'on apprend à accepter ce qui est, sans jugement, ni résistance. Et même si on veut parler de l'impact de l'attachement excessif sur notre cerveau, sur notre système nerveux, à votre avis, dans quel état ça va mettre votre corps? En étant trop attaché, on est dans la rigidité, on est dans le stress. À l'inverse, si on apprend à nous détacher, eh bien on va favoriser la flexibilité mentale, l'agilité émotionnelle. Et donc, on favorise notre croissance, on favorise notre résilience, notre évolution. On favorise à notre cerveau les conditions nécessaires pour développer la neuroplasticité de la résilience. Alors que l'attachement excessif, quand on s'accroche à des attentes rigides ou des schémas de pensée répétitifs, ça va limiter cette flexibilité. Ça va impliquer davantage tous les mécanismes de survie, le stress, les réponses émotionnelles de stress aigu, et ça va exacerber ce sentiment d'insécurité. Et quand on est dans cet état, imaginez votre corps qui va activer tout l'arsenal, les hormones de stress. Mais je sais que c'est pas évident. Mais cela s'apprend, le détachement s'apprend. On peut l'apprendre. Et c'est quelque part entraîner notre cortex préfrontal à réguler nos émotions, à prendre le dessus, à apaiser nos réactions au stress. Et pour vous accompagner dans ce processus d'apprentissage, si ce n'est pas encore fait, je vous propose des exercices pratiques que vous pouvez adopter dans votre quotidien. Ces exercices sont inspirés des approches comportementales et cognitives. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger le PDF via le lien indiqué dans la description en dessous de la vidéo. Enfin, je vous dis un grand merci pour votre écoute. et à bientôt.
Voilà, bah écoutez, c'est toujours pareil, c'est toujours un petit peu plus de lecture sur la relation à l'autre.
Il y a
effectivement le détachement.
On met à la machine.
Bah,
et
pour moi, c'est la même, approche que la précédente capsule. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un moment où il faut prendre conscience des problématiques que l'on a.
De nos émotions.
En réalité, c'est que le détachement émotionnel, c'est intéressant d'entendre quand des personnes parlent de certaines.
Voilà,
par exemple, le problème de l'attachement, le problème de la séparation.
Se détacher d'une relation.
Voilà, pour
faire le deuil d'un passé douloureux.
De situations difficiles, relationnelles difficiles.
Libérer des attentes irréalistes.
Et après, une fois qu'on a mis ça en conscience, ce qui est bien, c'est d'aller le travailler.
Donc, apprendre à se détacher,
individuel,
c'est
toujours
reprendre
pareil,
sa liberté,
avec, il y a plusieurs méthodes qui existent aujourd'hui, mais chaque âme de passage sur cette terre ne peut faire l'impasse d'aller à la rencontre d'elle-même.
On peut se sentir apaisé, libre, indépendant.
Un retour avec une personne qui est neutre et qui nous permet de nous découvrir dans des bonnes conditions.
Si on l'a
on se fait une petite pause humour et puis après on se retrouve pour la troisième
Donc,
et dernière capsule de l'émission.
Pour comprendre ce que ça veut dire le détachement, je vous propose...
Alors bonsoir à tous, je me présente, je suis votre comique pour les 5 minutes qui vont suivre. Alex Ramirez. Alors, je vais écrire mon nom au tableau, comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, R-A-M-I-R-E-S. J'insiste sur le S. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai également un diplôme de mime. Merci. Attention, j'ai mieux. Lancez de créer. On y croit, hein? C'est un métier. Bien, alors rassurez-vous, ce soir, par contre, on ne fait pas des maths. Non, moi, j'ai jamais rien compris au théorème de Belphégor, alors c'est pas ce soir que bon. Non, moi, ma matière préférée à l'école, c'était la récréation. Non, j'adorais ça. Pour moi, la cour de récré, c'était un espace de liberté totale par excellence. Liberté dans les relations. Ah oui, dans une cour de récré, tu pouvais passer de célibataire à polygame avec une fluidité. Margot, tu vas être mon amoureuse. Caroline, tu vas être mon amoureuse. Lola, tu vas être mon amoureuse. Maman, j'ai 3 amoureuses. C'est bien, mon chéri, ça ne dérangeait personne. Ça, quand t'es adulte, tu peux plus le faire, ça. Enfin, si tu peux, mais dans ce cas-là, t'en parles pas à ta maman. C'est compliqué. Moi, je me rappelle à la récré, des fois, les grands, ils venaient nous voir avec Margot, et ils nous demandaient de nous faire des bisous pour faire rire toute la cour. Ils faisaient « On les amoureux, et maintenant, sur la bouche, sur la bouche !» On était un peu le YouPorn de la récré. Ça aussi, quand t'es adulte, c'est compliqué. Je veux dire, j'ai rarement vu à la pause, à la machine à café, un PDG demander à son comptable de se faire la secrétaire pour détendre tout le bureau. Allez-y, allez-y, Franck, on vous regarde, allez-y. Corinne, lâche ton café, va voir, c'est marrant. Oh, les amoureux. Et maintenant, par derrière. Bah non, ça marcherait pas. Cours de récré, espace de liberté financière également. Alors ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais des fois à l'école, si t'avais un gamin qui te bloquait le passage comme ça, et il te faisait péage. Faut payer. Et pour payer, tu faisais quoi? Tu tapais dans sa main. Pourquoi on garde pas ça? Pourquoi on garde pas ça? On serait jamais en galère d'argent. Il suffirait juste d'avoir des mains. Bonjour monsieur, je voudrais cette voiture. Faut payer. Allez, t'as vous, bonne journée. Bonjour monsieur, je voudrais cette voiture. Ah non monsieur, pas de bras, pas d'Opel Corsa. Alors après, comme dans tout espace de liberté totale, faut savoir qu'une cour de récré, ça reste un milieu hostile. Ah bah regarde les gamins sortir des classes. Tu comprendras vite pourquoi on appelle ça une école primaire. Ah, ils sont pas encore complètement civilisés, hein, il manque un petit truc, on le sent. Si vous me croyez pas, moi j'ai été animateur. Retournez un jour dans une cantine au moment du repas et posez un plat de frites au milieu de la table. Si vous êtes pas assez rapide, vous perdez vos phalanges. Ah, ils s'en foutent, pour eux c'est des frites, tu vois pas la différence. Hein. Quand t'es gamin, t'es un animal. D'ailleurs, il suffit qu'il y ait une bagarre dans la cour pour que tu vois comment fonctionne toute la chaîne alimentaire de la récré. D'un côté, t'as les prédateurs qui se battent. De l'autre, alertés par le bruit, les suricates. Aïe! Aïe, il y a une bagarre. Aïe! Du coup, ça affole les autruches. Les autruches, tu sais, c'est les gamins qui courent tout le temps, mais tu sais pas pourquoi. Ils vont se cacher dans le bac à sable. Autruche qui double les tortues. Les tortues, c'est les petits CP qui ont des gros cartables. Tortue qui passe sous les girafes. Ça, c'est les grands qui ont 14 ans parce qu'ils ont redoublé 6 fois. Girafe qui reste éloignée des hyènes. Bon, bah, les hyènes... Ma maman, elle m'a laissé mettre du vernis. Il est rose, comme Lola. Bref, toute la jungle est en ébullition, sauf une zone, toujours la même, sous le préau, là où il y a les vieilles maîtresses éléphants. Eh ben oui, moi j'ai vu Jacqueline, moi. C'est bon, mais tu poses bien. Bon, mais tu poses... Avec leur petit oiseau parasite à côté. Tu sais, les lèche-culs. Les pigeons, ils sont là. Maîtresse. Maîtresse. Là-bas, ils se battent. Et puis, il y a toujours ceux qu'on oublie. Ceux qu'on laisse tout seul au milieu de la cour. Ça, c'est les plantes. Ah, mais c'est le bas de la chaîne alimentaire. Tu vois, ce que j'appelle les plantes, tu sais, c'est les gamins dans leur monde. Tu les fous au soleil avec un peu d'eau, ça leur suffit. Pokémon. Attrapez. Ça, c'était moi. Mais vraiment, j'adore les enfants. Non, vraiment, j'aime beaucoup les enfants parce qu'un gamin, c'est pas hypocrite. Exemple, un anniversaire, un gamin, tu lui offres un cadeau. S'il aime pas, tu le vois direct. Ça, c'est génial. Et souvent, tu sais, t'as les parents à côté qui forcent la réaction du gamin pour pas plomber l'ambiance. Oh! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle t'a acheté, mamie? Oh là là, ouvre vite! Oh là là, c'est un joli buste de Napoléon! T'es content? Oui!
Alors, on arrive sur la dernière capsule de l'émission. Et on va être sur quelque chose qui est normalement le cœur de l'émission, c'est un témoignage. Voilà, une personne, c'est une femme. Et vous allez voir, cette femme autorise, pour les raisons qu'elle va expliquer dans cette capsule, autorise l'adultère de son mari. Voilà, donc on part du principe qu'on aurait pu avoir une personne qui, durant l'émission, serait venue nous en parler en direct. Voilà, là on n'a pas cette personne. Alors, j'ai réussi à capturer ça sur Internet et je vous le livre maintenant. Écoutez, voyez si ça vous parle, si ça vous offusque, si ça vous tend, si ça vous fait sourire et que vous dites « Ah oui, pourquoi pas, c'est intéressant comme point de vue ». Voilà, tout est possible, laissez-vous porter.
Ça fait combien de temps que vous êtes avec Yves ?
Oui.
C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes avec...
Ça fait 10 ans. On s'est rencontrés. Au bout de 3 mois, on vivait ensemble. Et au bout de 5 ans, on se mariait.
Donc, passion depuis toujours ?
Oui.
Est-ce que la passion s'est un peu effritée avec le temps ?
Alors, non. Justement, on entend souvent dire « Oh, la passion, ça ne dure pas ». Alors, si. Voilà. On a la même passion que depuis le début. En fait, on ne peut pas se séparer de l'un de l'autre.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, il y a 5 ans, j'ai déjà d'abord eu une hystérectomie totale.
D'accord. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une hystérectomie ?
C'est quand on enlève l'utérus pour diverses raisons.
Alors, moi, c'était total, puisqu'on m'a aussi enlevé les ovaires.
D'accord. Pour des raisons médicales. Et les trompes.
Voilà, pour des raisons médicales, on m'a tout enlevé.
D'accord. Qu'est-ce que ça a changé chez vous ?
Alors, au niveau moral, rien, parce que ça ne m'a pas... je n'ai pas ressenti de manque sur la potentielle maternité ou autre. J'étais complètement libérée par rapport à ça. Par contre, j'ai eu des complications sur 1 an, on va dire. J'ai mis 1 an à m'en remettre. Voilà, ça a été un peu difficile. Donc déjà, au niveau de l'intimité, ça s'est affaibli. C'était plus...
Donc juste une histoire pour l'instant de désir. Vous n'étiez voilà, pas là-dedans.
Médical, quoi. Déjà, médical. Une histoire médicale. Et puis après, je me suis rendu compte, au bout d'un an, j'avais toujours... Ma libido était tombée. Au bout de deux ans, elle n'était pas revenue. Alors on me disait, c'est pas une fatalité, hein, la ménopause, tout ça, mais ça ne revenait pas. Et c'était pas du tout notre mode de vie. Voilà, on avait une activité sexuelle très intense, voilà, extrêmement compatible, heureuse et épanouie, tout à fait. Et en fait, j'avais beau essayer tous les traitements qu'on peut trouver en pharmacie ou en parapharmacie.
Ça ne revenait pas.
Ça ne revenait pas.
Donc vous n'aviez aucun rapport sexuel et intime avec votre épouse?
Si, on en avait, mais je devais. Alors le mot n'est pas joli, mais j'en trouve pas d'autre. Je devais me forcer.
Oui, c'est ça, un petit peu, quoi.
Voilà, me dire.
Pour lui, bon, c'était pour lui.
Pour se faire violence. Voilà. Ouais, et puis en fait, à force de se faire violence, ça va peut-être revenir. Voilà. Ouais.
Et alors, c'est au regard de cette libido éteinte que vous avez décidé de lui proposer un adultère consenti?
Alors, ça a été plus compliqué que ça, parce que s'il y avait eu que la libido, bon, ça aurait pu aller. Mais en fait, j'avais d'autres problèmes qui ont été mal identifiés. J'ai eu 4 ans de suivi gynécologique jusqu'à ce qu'on trouve qu'en fait, j'avais un lichen scléreux.
Et ah oui, alors donc vous étiez même dans une incapacité physique d'avoir des relations intimes.
Voilà, donc en fait, ça fait 4 ans que même en essayant, c'est douloureux.
Ouais.
Voilà.
Donc vous ne pouvez plus et vous ne voulez plus.
Alors, je n'ai plus envie, mais de toute façon, quand bien même j'essaierais...
Ça ne passe pas.
Ça ne passe pas, c'est plus possible.
Quel est, alors, qui a commencé à penser à cette option de lui autoriser, j'imagine, des relations intimes ailleurs?
Alors moi. Moi, parce qu'en fait, c'est un sujet qui n'est pas tabou chez nous. Voilà, mon mari est très attiré.
D'accord.
Voilà.
Il a une libido réveillée.
Une libido réveillée. Et puis, c'est un sujet dont on a toujours parlé, même lui avec sa famille, ses enfants. Ce n'est pas un sujet de tabou. Au bout d'un moment, constatant quand même que de toute façon, médicalement,
vous n'y arrivez plus.
Il n'y a pas de traitement. C'est très compliqué.
Donc, j'allais juste vous dire, alors oui, c'est très compliqué, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons,
oui,
d'autres pratiques?
Plein de bon sens.
Ou voilà.
Vous auriez pu avoir des relations sexuelles autres.
Si, n'ayant pas non plus de libido, pour avoir d'autres modes de sexualité.
Oui, il fallait avoir envie.
C'est ça.
Il faut avoir envie. Oui. Mais alors là, on soulève une vraie question. Est-ce que, dans votre cas, le fait de renoncer visiblement comme votre libido était endormie, est-ce que quoi qu'il arrive, moins on titille cette libido, moins on a envie? C'est-à-dire que vous l'avez laissé vraiment s'éteindre.
Bah aussi.
Ouais. Oui. Oui, je comprends.
Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le sujet s'est posé sur. Moi, j'ai 55 ans, médicalement et psychologiquement. Pour moi, je n'ai plus ni de besoin, ni de possibilité, ni d'envie. Mais lui, il a toujours toutes ses capacités et ses envies.
C'est venu de vous ou c'est venu de lui, la proposition?
C'est venu de moi.
Et alors, vous lui avez dit quoi, concrètement?
Je lui ai dit, écoute, souvent, il me disait, comme beaucoup de femmes, tiens, elle est jolie, ou tiens, machine. Et je lui ai dit, vas-y.
Vous lui avez dit, vas-y?
Oui.
Avec des limites, avec des conditions?
Alors, au début, c'était vas-y, et donc il rigolait. Et puis, le sujet, quand même, s'est développé. Hein. Il a fallu qu'on en discute. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Donc, comme on discute beaucoup, on a beaucoup aussi discuté de ce sujet-là. Puisqu'au début, il me disait, mais non, j'attends, voilà, ça va revenir, je suis patient, je suis pas un homme comme ça. Et puis, de toute façon, je t'aime, et puis, il n'y a pas que ça, voilà. Sauf qu'un an, deux ans, voilà, au bout d'un moment, on a beau dire ça, ça fait quand même du bien. Mmh. Voilà, ça apporte beaucoup de bien-être.
Bien sûr.
Et je sentais bien qu'il y avait des jours où il était un peu tendu. Et je me disais, ça lui ferait pas de mal à se détendre. Voilà.
Oui, je comprends. Mais avec des limites.
Et donc là, la deuxième phase, ça a été de discuter en lui disant, je suis d'accord. Par contre, effectivement, j'ai des limites. Donc la première, c'est que tu te protèges. Qui est importante pour tout le monde, d'ailleurs, de nos jours. Et la deuxième, je ne veux pas savoir.
Oui, ça, je comprends.
Je ne viens pas vous raconter. Tu me racontes. Je ne veux pas savoir si tu as rendez-vous tel jour. tu vas, je sais pas, faire des courses, ce que tu veux.
Vous n'avez pas eu peur qu'il tombe amoureux ?
Alors, il y a le risque, bien sûr, on en a parlé. Alors, plus lui. Du coup, ce que lui l'a réfréné, c'est de se dire, y a cette possibilité-là de tomber amoureux, et moi, je ne veux pas avoir dans tes yeux un sentiment de trahison. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mis des limites, en limitant au maximum les risques.
Alors, comment vous les avez limités, les risques ?
Eh bien, je les ai limités en allant, là, il y a peu de temps, l'inscrire moi-même sur un site.
Un site de quoi ? De rencontre ?
Oui.
Mais un site de rencontre comme tous les autres ?
Alors, non. C'est un site de rencontre qui a été créé il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, par des femmes, pour des femmes qui veulent de l'adultère.
Du coup, vous vous assurez qu'elles ne sont pas libres dans leur cœur et que tout le monde est là avec la même volonté.
Voilà.
Donc, vous l'avez inscrit vous-même ?
Oui.
Vous avez mis sa photo ?
Oui.
Vous avez choisi la belle photo ?
C'est ça, j'ai mis le texte.
Ah ouais ? Comment il a réagi ?
Ça l'a fait rigoler.
Et il a répondu à des propositions ?
Alors, j'ai créé le site, enfin, j'ai créé son profil et j'ai tout mis sur un papier. Je lui ai dit, voilà, il y a ton adresse mail, ton code mot de passe. Maintenant, je t'ai tout fait.
Tu te débrouilles. Mais je veux... Et en même temps, comme vous lui avez dit, je ne veux pas savoir, c'est-à-dire qu'il ne vous a rien tenu au courant ?
Bah, si, parce qu'en fait, on a tous les deux l'application sur notre téléphone.
Ah oh bah alors, vous êtes, hey, dis donc, vous êtes coquine. C'est-à-dire que vous dites, je ne veux rien savoir, mais je me mets quand même l'application. C'est-à-dire que vous avez pu voir les messages qu'il échangeait avec
les femmes. C'est moi qui les
choisis. Quoi ? C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez ?
Oui.
Alors, vous n'êtes pas très honnête avec vous-même, parce qu'au début, vous dites, je ne veux rien savoir. Mais en fait, regardez, j'en fais tomber mon stylo. Vous dites au début, je ne veux pas savoir, mais en fait, vous conditionnez quand même tout, quoi. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez où, oui. Quand, comment, pourquoi.
Alors, j'ai choisi les profils pour m'assurer qu'elles soient mariées ou en concubinage, puisque aussi, sur ce site, elles expliquent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas.
Ouais.
Voilà, donc elles expliquent qu'elles veulent juste une passade, que leur mari est au courant, que leur conjoint est au courant, que c'est consenti, ce qu'elles aiment comme pratique. Enfin, c'est un site qui qui détaille vraiment tout ce qu'elles veulent, le physique, parce que je ne vais pas aller l'inscrire non plus avec Adriana Carambeu, hein, je ne suis pas complètement.
Ah, donc vous choisissez des jolies mais pas trop, sexy mais pas trop.
Voilà,
en fait, vous limitez le
danger. Sur le double de moi, ce n'est pas le but.
Mais lui, est-ce qu'il est attiré par les mêmes femmes que vous ?
Oui.
Ouais. Et donc, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, c'est déjà arrivé ?
Alors non, moi, en fait, j'ai choisi. En fait, c'est un peu comme sur les autres sites. On envoie des likes. Et si elles sont d'accord...
Il y a un match.
Il y a un match.
Et le match a-t-il été partagé ?
Pour le moment, il n'a pas de chance. Il n'a pas eu de match.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de relation adultère qui a été consommée ?
Non.
Et il les cherche ? Vous avez le sentiment que maintenant, il est ouvert à cette idée et qu'il est en demande ?
Non, en fait, il accepte que je sois ouverte d'esprit, mais il ne va pas chercher.
Il a toujours l'impression de vous trahir ?
Oui, il a peur.
Vous êtes quand même la seule femme qui demandait à son mari... Non, je plaisante, mais vous êtes quand même une femme qui demandait à son mari de la tromper, et lui, il ne veut pas, et vous acharnez. Ça, je ne l'avais jamais entendu.
C'est ça.
Voilà. Bon, voilà, chacun va visiter cette capsule, comme ça lui semble intéressant d'entendre et d'écouter ce qui a été dit. Écoutez, je vais vous souhaiter du coup une belle soirée. C'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Donc effectivement, il n'y a pas de témoignage, eh bien, ça sera encore de nouveau des capsules sur le sujet. On va continuer à creuser, on va continuer à aller écouter différentes personnes parce que selon les personnes, la manière de s'exprimer, la manière, l'angle pour aborder la relation, ça va parler plus à certains qu'à d'autres. Et donc, je diversifie les sources, comme ça, ça, normalement, ça vient impacter et toucher un maximum de personnes de l'auditoire. Voilà, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.